top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Chaque année, on se moque du cirque médiatique, de la forêt de micros et des bousculades chez Drouan, mais chaque année, on lui accorde la même place dans les médias. Le prix Goncourt 2017 sera décerné lundi. Il reste quatre auteurs en lice. Alice Zeniter, Véronique Olmy, Yannick Enel et Éric Vuillard. Les prix littéraires, excellente raison d'offrir un éclairage médiatique à la littérature. Il y en a d'autres, le sujet d'un roman qui résonne avec l'actualité par exemple. Et puis l'écrivain, à lui seul, l'écrivain comme animal médiatique, sommé de se mettre en scène, de se livrer, d'attester de son authenticité et d'avoir un avis sur tout. Tout cela a-t-il changé les auteurs? La chair est triste, hélas, et les journalistes ne lisent pas tous les livres. Comment les médias ont-ils façonné la littérature et les écrivains?
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Vincent Kaufmann.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, d'avoir fait le trajet depuis la Suisse, puisque vous êtes professeur de littérature et d'histoire des médias à l'université de Saint-Gall, en Suisse. Vous publiez aux éditions du Seuil un essai passionnant intitulé « Dernière nouvelle du spectacle, ce que les médias font à la littérature ». Le titre est un hommage à Guy Debord et à son incontournable Société du spectacle. Finalement, votre livre à vous, c'est la suite du sien, 50 ans après. Le spectacle de Debord, il existe toujours. Les règles ont-elles changé, Vincent Kaufmann?
Oui, je crois que le spectacle existe toujours, mais qu'effectivement les règles ont changé dans la perspective de Debord. En 67, il y avait une vision très marxiste du spectacle. Le spectacle, en gros, pour résumer, c'était ce que la société de consommation veut nous faire croire et nous faire faire, avec l'idée d'une espèce de manipulation, de pouvoir qui tirerait les ficelles dans les coulisses. Je crois qu'aujourd'hui, on peut voir les choses très très différemment. Je dirais que le spectacle, il s'est autonomisé parce que nous sommes entrés peu à peu, à partir de la fin des années 70-80, dans ce que j'appellerais une économie de l'attention, c'est-à-dire que nous n'avons plus 6 chaînes de télévision, nous en avons 600, et en plus il y a Internet. Donc il y a une inflation exponentielle des informations qui nous parviennent, et la seule chose qui n'a pas changé, c'est le temps dont nous disposons pour les absorber. Et donc notre attention est devenue la chose la plus précieuse pour laquelle tous ceux qui nous vendent des produits, des livres, des spectacles, de toutes sortes, des informations, se battent. Et cette économie de l'attention a profondément changé le fonctionnement des médias, mais pas seulement des médias, également le fonctionnement de la littérature, je crois.
Voilà, l'écrivain, je vous cite, est devenu un fonctionnaire au service de l'économie de l'attention. Il faut se battre pour des poussières d'attention. Et la télé, selon vous, c'est la banque centrale de ce marché.
Oui, on dit beaucoup aujourd'hui que tout passe par Internet, par les réseaux sociaux, etc. Je crois que la télévision, dans l'économie de l'attention, continue à jouer un rôle très très important parce qu'elle fournit de la visibilité exclusive. Tout le monde ne passe pas à la télévision et donc tout le monde est prêt à se battre pour y passer. Tout le monde est prêt à payer de sa personne et à payer éventuellement très très cher pour avoir accès à cette économie de la visibilité.
Alors, c'est un marathon médiatique qui démarre en août et qui va se terminer lundi prochain. Le prix Goncourt est une particularité française qui offre évidemment un événement aux médias.
Je m'y attendais pas, je me préparais à ne rien avoir pour ne pas être déçue. Donc j'étais sereine et calme.
Voilà. Et vous n'avez pas été déçue?
Non, pas du tout.
On entend les micros qui se cognent, la bousculade, Leïla Slimani en direct sur BFM TV l'an dernier lors de la remise de son prix Goncourt. Oui. Si vous m'autorisez à jargonner, Vincent Kaufmann, il faut bien une accroche actu pour parler d'un livre.
Dans le contexte actuel, oui. Dans le contexte actuel, la littérature qui n'est pas directement liée à l'actualité, en principe, elle ne va exister dans l'actualité que grâce à des phénomènes comme les prix ou alors des auteurs qui vont littéralement tout faire pour se faire remarquer. Mais les prix, oui, c'est une façon d'organiser dans le domaine de la littérature un événement. C'est une compétition, ça fonctionne. fonctionne comme Roland Garros en juin. Il y a des finalistes, il y a des perdants, des gagnants, des larmes, des contents, des pas contents. Et c'est typiquement un événement spectaculaire. Le modèle sportif, il est partout dans le spectacle. Il est là dans la politique aussi, maintenant dans la littérature. Il y a des concours, des classements partout. C'est comme ça qu'on transforme quelque chose qui n'est pas forcément un événement en un événement spectaculaire.
Mais il y a aussi un lien avec les lecteurs, parce que les médias contribuent à faire vendre un livre, et seul un livre qui se vend peut prétendre obtenir le Goncourt.
Oui, alors, il y a une sorte de cercle qu'on dira vicieux ou vertueux, selon ce qu'on en pense, où bien entendu, les prix confirment les bonnes ventes et les bonnes ventes confirment les prix. Tout ça est une économie circulaire où, de manière générale, les gagnants gagnent encore plus.
Je vous cite dans votre livre, Vincent Kaufmann, « S'il veut exister sur la scène littéraire, l'écrivain doit désormais accepter de comparaître devant les médias, de témoigner d'un goût prononcé pour le sacrifice. » Est-ce à ce point douloureux pour les auteurs? C'est une comparution? C'est un sacrifice?
Alors, c'est peut-être pas toujours le cas, il ne faut pas non plus exagérer, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour être visible aujourd'hui, puisque la visibilité est précieuse, il faut en payer le prix.
Il faut en rajouter.
Il faut en rajouter, il faut payer le prix, il faut payer de sa personne. Et payer de sa personne, quand on veut être présent dans les médias, ça veut dire qu'il faut accepter les conditions d'entrée dans l'économie de la visibilité dont les médias décident. Il faut s'expliquer sur les raisons qu'on a de vouloir être là. Il faut être prêt à se laisser humilier, agresser, il faut exposer son intimité, il faut apparaître aussi comme un personnage authentique, parce que le spectacle se donne évidemment toujours comme quelque chose d'authentique, sinon ça ne marcherait pas. Il faut qu'on y croit au spectacle. Donc cette économie des médias va mettre en place toutes sortes de dispositifs pour créer de l'authenticité et le sacrificiel, mettre les gens en position de devoir sacrifier quelque chose, c'est très bon pour produire de l'authenticité. C'était parce que qui aurait envie de le faire si ça n'était pas vrai?
Alors parlons, puisque la transition est toute trouvée, de cet affrontement entre Christine Angot et Sandrine Rousseau il y a quelques temps sur le plateau de Laurent Ruquier. Il a suscité beaucoup de commentaires, cet affrontement. C'est intéressant de l'analyser à la lecture de votre livre, Vincent Kaufmann, parce qu'il faut se donner, il faut effectivement donner de sa personne, se mettre en scène soi-même. Le spectacle n'aime pas qu'on parle au nom des autres. Angot reprochait à Sandrine Rousseau de parler au nom des victimes.
Exactement, c'était un conflit de ce point du là tout à fait passionnant entre Christine Angot, qui aussi finalement depuis 20 ans entre une position de victime et d'accusatrice, on pourrait presque dire d'exécutrice aussi, si on pense à d'autres interventions récentes d'elle, par exemple à l'émission politique de Fillon. Et là, elle interpelle Sandrine Rousseau, elle lui interdit de parler au nom des femmes, des violences que subissent les femmes. Je crois que c'est emblématique de la position spectaculaire qui... Le spectacle déteste le discours. Le spectacle ne veut pas que l'on parle au nom d'eux.
Il veut des individus.
Il veut des individus qui se montrent tels qu'ils sont, dans leur authenticité, avec ce qu'ils ont subi, comme des espèces de victimes. C'est ça que le spectacle favorise. Et donc c'était une espèce de mise en scène de comment le spectacle fonctionne. C'était le spectacle qui disait à une femme de discours, vous n'avez rien à faire là.
Christine Angot, d'ailleurs, sera absente samedi, après-demain, et la production de l'émission a choisi Claire Chazal pour la remplacer. C'est pas inintéressant, parce que ça prouve bien que c'est pas la romancière Christine Angot qui a été recrutée dans cette émission. C'est la polémiste.
Oui, et ça montre surtout aussi où on en arrive en ce qui concerne aujourd'hui la fonction de la littérature. Parce qu'on pourrait dire un petit peu la même chose à propos d'Yann Moix aussi. C'est-à-dire que finalement, la littérature devient une pratique du règlement de compte, de la production de conflits. Il y a autour d'écrivains comme Christine Angot ou Yann Moix tout le temps des polémiques, des agressions, des situations où ils humilient des invités. Voilà, la littérature a été associée il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années à quelque chose comme un droit à la mort, à la disparition. Là, ça serait plutôt à une espèce de permis de tuer.
La littérature à la télé, c'est aussi, oui, bien sûr, la grande librairie, émission en première partie de soirée sur une grande chaîne qui réunit 400 000 téléspectateurs en moyenne chaque semaine. Deux monuments de la littérature française, d'ailleurs, sont invités de François Bunel ce soir sur France 5, Pierre Michon et le prix Nobel de littérature Patrick Modiano.
Quel est le processus à l'œuvre dans votre écriture ?
Oui, c'est-à-dire, c'est toujours... parce qu'évidemment, c'est très difficile de parler d'une manière lucide de ce qu'on écrit, parce que ce qui est terrible aussi, c'est que ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on ne peut pas être le lecteur. Évidemment, il y a aussi une chose très mystérieuse, c'est que on ne peut pas être le lecteur de ses propres livres, malheureusement. Donc, on a toujours une vision un peu confuse et parcellaire de ce qu'on vient d'écrire.
J'ai eu l'occasion tôt ce matin sur France Inter de dire à quel point l'élocution de Modiano est touchante. Il balbutie comme on rature un roman, finalement. Quel est votre regard sur l'attitude médiatique de ce prix Nobel de littérature, Vincent Kaufmann ?
J'aime beaucoup l'attitude de Modiano.
Il faut balbutier avant
parce que
de l'évoquer,
j'ai l'impression,
évidemment,
que depuis des années, il réussit une sorte de tour de force, c'est-à-dire que il se met en scène à la télévision ou à la radio comme un écrivain qui ne serait absolument pas télégénique. Il vient balbutier à la télévision avec, c'est une sorte de parti pris chez lui, on a l'impression, et c'est d'une très grande efficacité, je crois.
C'est une stratégie.
Oui, c'est une stratégie pour sans doute tenir un petit peu le spectacle en joue, pour le tenir en respect, quoi.
Donc c'est une manière de venir, mais de dire à la fois je ne suis pas dupe de ce spectacle, justement.
Exactement, exactement. C'est sa force, là.
Vous soulignez, Vincent Kaufmann, dans votre livre, un élément qui me semble vraiment important. Les écrivains se sont mis à massivement se raconter, à se mettre en scène, à pratiquer l'autofiction au moment où est apparu Apostrophe à la télévision. C'est concomitant.
Oui, c'est concomitant. Alors, il faut évidemment pas interpréter les choses de façon trop mécaniste, mais je crois qu'il y a une convergence entre quelque chose comme un tournant autobiographique dans la littérature française et le fait que la télévision est en train de devenir hégémonique, de devenir le média dominant et donc le média le plus séduisant pour les écrivains qui veulent se faire connaître. Voilà, si vous apparaissez à la télévision ou si ça fait partie de votre cahier des charges, vous allez arrêter d'expliquer en long et en large que l'auteur est fait pour disparaître, pour mourir, pour ne pas être là. On peut pas venir à la télévision et dire je ne suis pas là. Donc au contraire, on va venir à la télévision en parlant de soi, en parlant de plus en plus de soi.
Mais dans quel sens fonctionne le phénomène à votre avis ? Est-ce qu'on écrit sur soi pour être invité chez Pivot ? Ou de manière plus diffuse, en répondant à des questions personnelles sur le plateau d'Apostrophe, on se met à vouloir écrire sur soi-même ?
C'est très compliqué, c'est très difficile de dire par quoi ça commence. Je crois qu'à un moment donné, c'est dans l'air du temps. On peut relever une espèce de convergence ou de quasi-simultanéité entre la naissance officielle de l'autofiction et le départ d'Apostrophe. Mais en même temps, Apostrophe a été précédé par d'autres émissions. Puis bien entendu, il y a des ancêtres à l'autofiction. Mais à un moment donné, les choses se cristallisent, se renforcent un petit peu comme des virus profitent d'une nouvelle situation parce qu'un autre virus aurait disparu, parce qu'il n'y a plus d'anticorps pour devenir beaucoup plus agressif, quoi.
Il y a une question que vous évitez soigneusement, ou plutôt que vous mettez à distance tout au long de votre livre, Vincent Kaufmann, mais je vous la pose quand même. Votre propos est-il de dire que la littérature c'était mieux avant ?
Non, c'est pas de dire ça.
Parce que Saint-Augustin et les Confessions n'ont pas eu besoin de la télévision, par exemple.
Oui, oui. C'est pas de dire que la littérature était mieux avant, c'est de dire, et ça j'y tiens quand même beaucoup, qu'elle n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'il y a des différences entre la façon dont elle fonctionnait, les attentes qu'on avait par rapport à la littérature il y a une cinquantaine ou même encore 30 ou 20 ans, et ce qu'elle est toujours aujourd'hui et ce qu'on peut en attendre aujourd'hui.
Aucun jugement de valeur, donc, dites-vous, et pourtant vous écrivez ceci. Y aura-t-il un jour un boulevard Guillaume Musso à Antibes ? Sans petite pointe d'ironie quand même.
Oui, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est plutôt un constat que on ne voit pas quels seraient les écrivains qui sont connus aujourd'hui qui vont rester. Il y en aura peut-être quelques-uns, très peu, mais en tout cas, on peut être à peu près certain que beaucoup d'écrivains qui sont aujourd'hui très populaires, qui enchaînent les best-sellers, vont disparaître assez vite et ne feront pas partie d'une espèce de canon littéraire ou d'héritage. Donc, il y a une sorte de passage à un stade très commercial de la littérature. Il y a sans doute beaucoup d'écrivains qui ont du talent, mais cette littérature n'a plus du tout la même fonction. On est dans le divertissement, dans les émotions, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, mais est-ce qu'on va se souvenir de certains de ces auteurs comme étant des espèces de guides moraux, politiques, ou des gens qui simplement ont dit des vérités profondes? Je n'en suis pas sûr.
Alors, votre approche n'est pas forcément nostalgique, mais elle peut sembler éventuellement élitiste, Vincent Kaufmann, parce qu'après tout, la littérature à la télévision, elle a sans doute pour ambition de recruter des lecteurs, de faire venir les gens à la littérature. C'est sans doute l'ambition de François Bunel et celle d'Augustin Trapenard sur Canal+. Ça sert à ça, la télé, ou pas, Vincent Kaufmann ?
Mais ça peut très très bien servir à ça. Il faut pas non plus faire comme si la télévision globalement était spectaculaire ou produisait du spectacle. Il y a beaucoup de zones à la télévision ou dans d'autres médias qui échappent à cette spectacularisation. Et je ne vois pas en quoi l'émission de Bunel serait de nature à produire du spectaculaire. Au contraire, donc il y a des espèces de zones franches partout, et c'est évidemment très bien. Moi, je prends beaucoup de plaisir aussi à lire certains best-sellers. Encore une fois, c'est pas du tout le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on évite de faire comme si la littérature était toujours aujourd'hui ce qu'elle a été, et qu'on ne se rende pas compte que les fonctions, les habitudes des auteurs, leur façon de paraître, d'apparaître dans les médias, etc., a complètement changé.
Alors, à ce titre-là, vous analysez d'ailleurs plusieurs écrivains et leur posture médiatique. On pourrait dire un mot rapidement sur un vieux dossier, si j'ose dire, mais Hervé Guibert à la télé.
Oui.
Qu'est-ce que ça donnait, à votre avis ? Qu'est-ce que ça disait de la littérature ?
Ben, c'était très intéressant aussi parce que c'est justement dans ces années où les choses basculent. Hervé Guibert est invité dans l'émission Apostrophe en 1990, au moment où il commence à écrire sa trilogie, ses récits autobiographiques sur le sida. Et il y a quelque chose de très important qui se passe là. Il devient tout à coup un écrivain très connu. Et puis, il y a ce basculement vers l'audiovisuel qui est emblématique dans son cas, puisque c'est à la suite de ce succès, de son passage dans Apostrophe, qu'une productrice de France 2 va lui proposer de tourner une espèce de documentaire sur lui-même avec un caméscope. Donc, il y a là emblématiquement un passage de l'écrit à l'audiovisuel qui est mis en scène.
Et c'est un point de bascule historique, finalement, oui, pour la littérature. Merci beaucoup, Vincent Kaufmann.
Merci à vous.
Dernière nouvelle du spectacle, ce que les médias font à la littérature. Et c'est mordant et plein d'humour aussi sur la nouvelle société du spectacle. C'est aux éditions du Seuil. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Dorothée Barba.
Grand bien vous fasse. Il y a un lien à faire aujourd'hui entre nos deux émissions.
À quoi sert encore la culture générale en 2017 ? Est-elle un ciment de la société, un instrument de sélection sociale, un moyen de briller en étalant ses connaissances, ou bien un vecteur de partage et de transmission ? Dites-nous à quoi sert pour vous la culture générale, 01 45 24 7000.
Ça sert à rien à l'heure de Google.